Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente
Sud Radio, c'est ça la France.
Maman, c'est toi la plus belle du monde.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France. Et oui, il y a des classiques qu'on prend plaisir à réécouter, notamment le jour de la fête des mères. Bonne fête des mères à toutes. On vous propose une émission pleine de découvertes, innovantes et saines pour la planète. Tout à l'heure, on vous fera justement découvrir une application, un jeu écologique qui se joue par équipe et qui propose des défis écologiques à réaliser entre amis, en famille, notamment avec la fête des mères ou entre collègues, pendant 3 semaines non-stop. Mais tout de suite, je vous propose justement de vous embarquer dans une belle découverte, une marque française de poudre capillaire éthique et engagée. Chaque poudre a été sélectionnée avec passion et attention afin de vous proposer le meilleur du végétal. Là encore, on prend soin de la planète. On en parle tout de suite avec sa fondatrice.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec Agathe Beneteau de Natural Powder. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Alors, dites-moi Agathe, c'est vrai que vous, j'allais dire... Le cœur de l'entreprise, c'est de valoriser toutes ces plantes, toutes ces minéraux aux vertus exceptionnelles. Alors, expliquez-nous justement en quoi ce qui singularise Powder.
Eh bien alors, ce qui singularise Powder, c'est que déjà, ce sont, comme vous l'avez si bien dit, ce sont des poudres de plantes ou des minéraux. Donc, nous sommes sur des produits qui vont avoir 100% d'actifs, qui sont plus naturels, cela n'existe pas, puisqu'on va récupérer des végétaux, les réduire en poudre et ensuite, pour les utiliser comme soins capillaires, les mélanger avec de l'eau. Donc, c'est aujourd'hui des soins qui sont parmi les soins capillaires les plus sains sur le marché des cosmétiques, finalement.
Donc, il y a une partie, c'est un peu du do-it-yourself. Hein, on est vraiment sur... C'est-à-dire qu'on récupère sa poudre et on fabrique sa petite potion chez soi, en rajoutant, j'imagine, juste de l'eau. Donc c'est assez simple pour nous.
De l'eau ou de l'aloe vera, des bienfaits désirés, mais c'est très très simple, c'est des petits masques hyper faciles à réaliser. En 5 minutes, on obtient quelque chose de très efficace et agréable à appliquer sur le cuir chevelu ou les cheveux tout simplement.
Mais alors quel a été le déclic chez vous? Est-ce que vous travaillez déjà dans cet univers-là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir justement à la recherche de toutes ces plantes aux vertus exceptionnelles, des plantes qui parfois sont utilisées en médecine ayurvédique?
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors j'étais déjà un petit peu dans le milieu de la cosmétique, même si j'ai pas du tout fait mes études là-dedans avant de partir en Inde. Et ensuite, je suis partie en Inde où du coup est issue la médecine ayurvédique.
Donc le déclic, c'est un voyage.
C'est ça, c'est un voyage et des rencontres. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et en Inde, du coup, j'ai pu rencontrer des femmes indiennes qui sont connues pour leur grande beauté. C'est des femmes qui sont coquettes, qui prennent soin d'elles. Et notamment qui utilisait ces poudres de plantes. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop génial. C'est écologique parce que c'est des poudres de plantes, il n'y a aucun ingrédient chimique. C'est hyper efficace. Donc, j'ai envie de ramener un petit peu ces produits en France pour les faire connaître au plus grand nombre.
C'est ça, c'est-à-dire que vous dites, en rentrant en France, vous avez dit, c'est dingue, ici on nous vend de l'eau, du poids, finalement beaucoup de bouteilles en plastique, alors qu'il y a des ingrédients 100% naturels, il suffit de les sélectionner avec rigueur, on peut en plus les avoir issus de l'agriculture biologique, alors pourquoi pas se lancer? Donc une fois qu'on a cette idée-là, on commence par quoi, Agathe?
Et quand on ne vient pas du milieu, on commence à faire des études de marché, comment ça fonctionne, y a-t-il des concurrents, est-ce que ça intéresse les gens? Ensuite, on essaye de trouver ses fournisseurs pour monter un produit. Voilà, moi, c'était vraiment important de sourcer donc de l'agriculture biologique parce qu'on fait du naturel, mais ça ne sert à rien d'aller utiliser des agricultures qui utilisent des produits phytosanitaires. Donc, on cherche des partenaires de confiance. Ensuite, on va travailler avec un laboratoire puisque pour lancer des produits cosmétiques, il y a également une grande partie de réglementation. Heureusement, on ne met pas n'importe quoi sur nos peaux ou sur nos cheveux. Donc, il faut passer par toutes ces étapes en laboratoire. Et ensuite, une fois qu'on a fait ces recettes, que ça a été validé en laboratoire, qu'on a trouvé ses fournisseurs, on trouve un packaging. Donc, nous, par exemple, on a opté pour des packagings sans plastique. Donc, on est sur du carton recyclé et recyclable. Et à la suite de ça, en fin de process, on va avoir toute la partie opérationnelle qui va fabriquer ces produits. Et nous, on travaille avec un acteur local qui est un ESAT, qui est un établissement qui emploie des personnes en situation de handicap qui se situe dans la Drôme.
Il y avait une volonté d'ajouter cette dimension éthique, c'est ça, et locale dans votre projet.
Ouais, on a essayé de faire, on a pris chaque bout du processus et je me suis dit, bon, bah, il y a déjà beaucoup de problèmes sur Terre, sur la planète, etc. Donc, je vais faire au mieux, donc sélectionner des ingrédients biologiques, éviter le plastique et ensuite contribuer à réinsérer des personnes en milieu ordinaire, donc un peu éthique et social en même temps.
Entre l'idée qu'a germé donc en Inde et enfin le premier produit sorti, il a fallu combien de temps ?
Il a fallu 9 mois. Ouais. On me dit que c'était plutôt rapide.
Oui, c'est assez rapide. Hein, oui.
Ouais.
Et donc au bout de 9 mois, vous aviez sorti une gamme de plusieurs produits.
C'est ça, une gamme de 5 produits. Donc en fait, la marque, elle a 1 an puisque les premiers produits sont sortis en février 2021. Aujourd'hui, on a une gamme de 17 produits avec des accessoires. Nos utilisateurs et utilisatrices sont super contentes et contents.
Et une fois qu'on a donc cette gamme de produits, il faut les commercialiser, donc il faut aller taper aux portes. Vous avez visé quoi ? Les magasins biologiques, les parapharmacies, la grande distrie ? Comment vous avez décidé de cibler justement votre clientèle ?
Eh bien, il fallait forcément, enfin pas forcément, mais pour moi, il fallait des entreprises qui soient en accord avec mes valeurs. Donc forcément, qui aient un intérêt pour la cosmétique naturelle, pour la consommation plus en général. Et du coup, nous avons ciblé plateformes e-boutiques qui vendent des produits naturels, mais aussi des indépendants. Ça peut être des magasins bio, des magasins vrac, des magasins indépendants de cosmétiques, tout simplement. Et là, on est en discussion avec les gros, on va dire, des secteurs spécialisés de bio.
Mais il y a un vrai engouement pour ces produits naturels. On a vraiment le sentiment qu'il y a ce plaisir de fabriquer désormais sa crème de soins, ses shampoings, ses après-shampoings, comme si on avait envie de maîtriser justement le contenu de ces produits.
C'est complètement ça, et d'autant plus après la crise du Covid où d'une part les personnes avaient plus de temps, d'autre part il y a eu vraiment des prises de conscience sur les enjeux écologiques, sur le retour à la naturalité, etc. Donc ça a vraiment, on va dire, permis au secteur du DIY de se développer. Là où nous on se positionne, c'est un entre-deux, c'est-à-dire que c'est des produits qu'on va fabriquer mais qui sont relativement simples et qui sont à la portée de tout le monde, même pour les personnes qui n'y connaissent absolument rien en DIY et qui n'ont pas envie de passer une demi-heure pour faire un produit. Là, ce n'est pas du tout le cas.
Alors, pour la fête des mères, qu'est-ce que vous conseillez pour les mamans ?
Et du coup, on a réalisé des petits coffrets pour la fête des mères avec 3 poudres powder qui permettent de réaliser une routine complète, donc shampoing, soins du cuir chevelu et shampoing sec pour sublimer tous les cheveux des mamans qu'on aime très, très fort.
Alors, c'est quoi la prochaine étape pour l'entreprise ?
La prochaine étape, donc on vient de mettre en place notre e-shop puisque pour le moment on était présent que chez les professionnels. Donc désormais on peut retrouver certains produits en exclusivité sur notre site internet. Ça va être aussi le développement de nouveaux produits puisque dans le secteur du capillaire il y a encore de belles choses à faire, notamment sur ce type de produit. Et ensuite ça va être d'agrandir l'équipe. Aujourd'hui on est 3 et j'aimerais continuer à nous structurer. Et peut-être aussi un développement à l'international, mais on va déjà continuer
à bien s'installer sur le territoire français avant de viser l'Europe et plus loin. Mais alors, pourquoi avoir fait le choix des formules en poudre ? Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de shampoing solide ou après shampoing solide. Vous avez décidé d'aller vers la poudre.
Moi, je suis dans le futur.
Vous avez raison.
Voilà, alors, liquide, c'est hyper connu, solide, c'est nouveau, mais ça a pris de plus en plus de place. Et poudre, en fait, parce que c'est des. Déjà, il y a pas d'ailleurs. Dans la constitution, il n'y aura pas d'eau. Donc, d'une part, ça fait que ce sont des produits déjà plus écologiques de par leur fabrication. Les durées de vie aussi sont beaucoup plus longues. Les conservations permettent d'utiliser du. du sans plastique. Et aussi, ce qui est hyper important sur nos types de produits, c'est qu'on est sur des 100% d'actifs. C'est-à-dire que 100% des plantes que nous allons mettre dans nos produits vont avoir une action. Alors que dans la plupart des produits cosmétiques, il va y avoir, on va dire, même dans les naturels, plein d'ingrédients pour un petit peu combler ce qui reste, qui n'ont pas forcément une efficacité directe. Il va y avoir peut-être parfois 2-3% d'actifs, mais ça reste peu. Nous, c'est 100% d'actifs.
100% actifs, pas d'eau, pas de conservateur. Et du coup, comme vous le disiez, ça se conserve aussi longtemps parce qu'on a vraiment que le principe actif qui est là, quoi. Et c'est à nous de rajouter le liquide en plus pour pouvoir justement l'appliquer sur les cheveux.
Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup, Agathe, de nous avoir expliqué justement comment vous êtes lancée dans cette belle aventure Natural Powder. Et longue vie à cette jeune entreprise.
Merci beaucoup.
Au revoir et bon dimanche.
Merci également. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Allez, on va se quitter une poignée de secondes et on se retrouve juste après avec une autre entreprise qui, elle, a fait le choix du divertissement qui, en même temps, permet de prendre soin de la planète. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France. Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous voilà de retour dans C'est ça la France pour cette spéciale fête des mères. Donc, on a décidé de vous présenter des belles entreprises qui ont envie de prendre soin de la planète. On était juste avant avec une très, très jolie entreprise qui a décidé de développer justement des produits de soins pour nos cheveux, pour notre bien-être, avec que des ingrédients 100% naturels. Et maintenant, on va s'intéresser à une association qui, elle, vous propose de vous amuser tout en prenant soin de la planète.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes avec Clément Debosque ou Debosque.
Bonjour à tous.
Bonjour
Clément,
Clément.
Debosque.
Debosque, cofondateur de Ma Petite Planète, cette association qui justement a eu cette belle idée de créer un jeu, une application écologique pour qu'on puisse s'amuser, se divertir, tout en nous apprenons à relever des défis écologiques. Alors expliquez-nous justement, c'est quoi exactement Ma Petite Planète ?
Alors, Ma Petite Planète, MPP pour les intimes, c'est un challenge de défi écologique à vivre avec son entourage. Et donc, notre association propose un challenge de 3 semaines où les gens vont pouvoir se challenger sur des défis autour de... Enfin, une soixantaine de défis autour de l'alimentation, les déchets, la mobilité, l'énergie, pour expérimenter des nouvelles choses et intégrer dans leur quotidien des bonnes pratiques qui font que les personnes seront plus cohérentes au regard des enjeux écologiques.
En fait, on nous éduque un petit peu tout en se divertissant. Alors, si on prend un exemple bien concret, comment ça fonctionne d'abord ? Est-ce qu'il faut avoir un smartphone ? Est-ce qu'il faut... Expliquez-nous.
Oui, donc très concrètement, l'idée c'est que n'importe qui peut créer une ligue et inviter son entourage. Donc il va se télécharger l'application Ma Petite Planète, créer une ligue, en parler à ses amis, sa famille ou ses collègues en entreprise. À savoir qu'on a également une version du jeu pour tous les enseignants qui veulent jouer avec leurs élèves de la maternelle au lycée. Et du coup, nous, la particularité, c'est qu'on crée des éditions communes à tous. Donc, notre un peu ambition, c'est de créer vraiment l'expérience collective la plus motivante possible sur le sujet de l'écologie. Et donc, on a des dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent sur nos éditions et qui vivent une expérience 2-3 semaines autour de l'écologie.
Est-ce que c'est possible de nous donner un exemple d'un jeu, d'un défi que vous, par exemple, vous lanceriez à vos amis Allez, un défi peut-être par rapport à l'alimentation, par exemple.
Moi, j'inviterais les auditeurs à expérimenter, par exemple, leur première semaine végétarienne. En fait, nous, ce qu'on remarque, c'est que les gens disent « Ah oui, tiens, je pourrais éventuellement le faire, pourquoi pas ?» Mais nous, comme il y a un prétexte et que finalement notre entourage compte aussi sur nous, les gens vont se mettre à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait sinon. Et le pari en leur proposant de faire ça, c'est qu'en fait, ils se rendent compte que c'est pas si compliqué, qu'il y a des super recettes qui sont disponibles en mode végétarienne et donc avec une empreinte écologique largement inférieure à un régime traditionnel qui est plus carné, qu'ils y prennent goût et qu'ils intériorisent sur le long terme, en fait, d'être flexitarien, voire végétarien.
Voilà. Donc ça veut dire que pendant une semaine, je décide de ne plus manger, d'être végétarienne, de mettre dans la peau d'une végétarienne.
Oui.
Une fois que j'ai rempli ce défi, je l'annonce aux autres et eux aussi doivent se lancer dedans. Enfin, c'est marrant parce que c'est une manière aussi de se stimuler, quoi, de se coacher. Donc une fois que j'ai rempli mon défi, je fais quoi ? Je préviens les autres ? Je leur dis alors, on se lance un autre défi ou c'est à vous de le réaliser ?
Donc en fait, nos MPP players, comme on les appelle, les participants et participantes, ils vont avoir 3 semaines et ils s'organisent comme ils le souhaitent pour valider un maximum de défis parmi la liste proposée. Et une fois qu'ils l'ont validé, donc ils peuvent envoyer une petite preuve dans la conversation de ligue.
Comment on le prouve ?
Alors, pour ce défi-là...
En photographie, on plaît tous les jours.
Ouais, alors pour ce défi-là, la preuve, elle est facultative, parce que ça fait beaucoup. Mais pour d'autres défis, par exemple, créer une recette vegan, bah, les gens, ils vont prendre concrètement une photo de leur plat vegan et l'envoyer dans leur conversation de ligue, par exemple, en expliquant bah, comment ils ont fait cette recette-là. Et ça donnera envie et des idées aux autres personnes bah, de s'y mettre. Donc, c'est toute une mécanique de jeu et d'émulation voilà, à travers le partage et la montée en compétences.
Vous avez le sentiment, justement, ma petite planète, les retours que vous avez des participants, c'est souvent des collègues ou plutôt les familles qui jouent entre elles, les amis. C'est quoi les groupes les plus fréquents sur ma petite planète,
hein. Ça fait 2 ans et quelques qu'on a démarré. Donc, on a fait passer à l'action un peu plus de 100 000 personnes, dont 2/3 en fait sont des élèves.
Des élèves,
hein. Ouais, 2/3 sont des élèves. On a des enseignants qui sont hyper actifs, qui ont déjà joué à plusieurs éditions. Et l'idée, c'est que les enseignants, bah, d'office, ils inscrivent toute une classe, voire parfois tout un établissement. Et ensuite, donc, sur la partie adulte, on a environ 35 000 personnes et on a 60% de personnes qui jouent en entreprise entre collègues. C'est un peu vécu comme un team building de 3 semaines autour de l'écologie.
Ah, c'est pas mal ça, c'est une manière effectivement, ouais, c'est ça, c'est une sorte de team building virtuel. On le fait depuis chez soi et on se stimule, on s'encourage dans
ces défis. Ça se joue à la fois à la maison, mais aussi potentiellement sur le lieu de travail ou alors en pleine nature. Vous voyez, donc les gens s'organisent. Il y a même des gens en collègue qui jouent parfois le week-end, qui valident des défis le week-end. Ils peuvent valider l'épreuve le lundi matin en revenant au boulot, mais ils continuent d'avancer dans le challenge le week-end.
Alors, quel défi vous pourriez justement conseiller à nos auditeurs pour la fête des mères en famille avec la maman?
Bah, moi, il y a un défi dont j'aime bien parler parce que je pense qu'il est hyper... Il s'agit de repenser un peu notre approche au vivant. Et donc, on peut faire un câlin à sa maman, mais nous, on propose à notre communauté de trouver un arbre dont le tronc fait plus de 4 mètres de circonférence et de faire un gros câlin et de citer son espèce. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens connaissent beaucoup plus les marques des multinationales que les espèces, les différentes typologies d'arbres.
Les variétés, les espèces d'arbres.
Voilà. Ouais. Et donc, les gens vont être hyper attentifs pendant les 3 semaines à trouver des gros arbres et à se dire, OK, cet arbre, mais qu'est-ce que c'est? Et ensuite, à faire un petit câlin et l'envoyer en selfie dans sa conversation.
Maman, je ne viendrai pas déjeuner, mais par contre, j'irai embrasser un arbre et je penserai bien à toi.
Exactement.
Mais c'est une manière, effectivement, de se reconnecter avec la nature. Et alors, comment vous... Qui réécrit les défis? Vous êtes une petite équipe comme ça? Parce qu'il faut constamment renouveler ces idées de défis.
Tout à fait. Nous, on a beaucoup co-créé un peu les défis avec, en fait, notre communauté qui, dès le premier jour, nous a suggéré pas mal d'idées. Donc aujourd'hui, on est 18 à temps plein. On a 140 bénévoles dans l'association qui sont essentiellement des anciens MPP players. Et en fait, à chaque fin d'édition, en fait, un petit questionnaire, on demande à notre communauté des nouvelles idées de défis et on les sélectionne, on les rédige, on les source, très important, on les rend les plus universelles possibles dans la mesure où le jeu est aujourd'hui disponible en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Et ensuite, on les pousse dans nos prochaines éditions pour qu'ils soient validés par le plus grand nombre possible.
C'est vrai que l'avantage du numérique, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Donc, il suffit de changer la langue et vous pouvez atteindre d'autres communautés.
Exactement. Nous, notre ambition, elle est clairement à minima à l'échelle européenne, peut-être à l'échelle mondiale dans plusieurs années, mais on a déjà environ 8% de notre communauté qui est internationale. Voilà.
Qui vient de quel pays?
Alors,
Europe essentiellement?
Ouais, c'est essentiellement Europe, mais ce qui est très marrant avec les élèves, c'est qu'on a beaucoup de collèges, de lycées français à l'étranger. On a eu 500, c'est assez marrant, on a eu tout un établissement au Maroc qui a joué lors de la dernière édition. Et donc, en fait, voilà, nous, notre ambition, voilà, c'est de rendre les défis les plus universels possibles et de trouver parfois des adaptations locales pour qu'ils soient validés par le plus grand nombre.
Merci beaucoup, Clément Desbosques. C'était très intéressant d'écouter justement cette belle idée qu'a lancée l'association Ma Petite Planète depuis 2 ans déjà. Et ben voilà, on se lance des défis écologiques par équipe, entre familles, entre collègues, entre amis, pour justement se redécouvrir la nature et puis se coacher, quoi. C'est un peu comme quand on doit aller au sport et on n'a pas envie d'y aller, ben voilà, si on doit prouver qu'on a été au sport ou qu'on a perdu du poids, j'en sais rien, ben on y va. Et donc là, l'idée de pouvoir d'avoir d'autres stimulants à distance, ben ça aide, quoi, d'autres co-coachs.
Très clairement, nous, on pense que le passage à l'action, il sera collectif, ou en fait, il se fera pas. C'est trop difficile à l'échelle individuelle de se motiver à prendre part à plein de chantiers, mais en revanche, quand on est ensemble et quand on a intérêt, et nous, on utilise les leviers de la gamification, clairement, les gens gagnent des points, des badges, etc., et de la reconnaissance sociale aussi, les gens y vont. Et du coup, très concrètement, j'invite tous les auditeurs, auditrices qui le souhaitent, on a une prochaine édition qui démarre le 30 mai 2022, c'est ouvert à tous, voilà. Donc lancez-vous, parlez-en autour de vous, et puis on vous attend nombreux.
Ma petite planète. Merci beaucoup, Clément Dubosc.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio CSA La France avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
En ce jour de fête des mères, quel cadeau vous conseilleriez pour faire plaisir aux mamans?
Pourquoi pas un parfum? C'est la preuve olfactive de tout l'amour que vous portez à vos mamans. Et si je vous parle de parfum, c'est aussi parce que je reviens de Grasse, où j'ai visité la maison Fragonard, l'une des plus anciennes parfumeries de la Côte d'Azur. Et j'ai été reçu dans l'usine historique par Cybrien Fabre, qui est le responsable de la promotion. Et je lui ai posé une première question. Pourquoi Grasse était
la
capitale du parfum?
Si on reprend la genèse de l'histoire, c'est surtout que Grasse était une ville de tanneurs. De tanneurs parce que finalement, on n'est pas très loin des montagnes et donc des bergers. Et les bergers descendaient dans la ville de Grasse, vendaient leur peau pour gagner un petit peu leur vie aux Grassois. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà visité des tanneries. Ça sent vraiment très mauvais. Et donc, du coup, les Grassois, à un moment, se sont dit, mais comment se sortir de cette odeur nauséabonde? Et ils ont commencé, bien sûr, à penser au parfum. Et à l'époque, à acheter du parfum à ceux qui en faisaient, qui étaient les moines italiens. Les moines italiens qui faisaient beaucoup de parfums parce qu'ils avaient des alambics pour diverses raisons et qui vendaient aussi du parfum. Donc du coup, les Grassois ont commencé à acheter du parfum à ces moines italiens et au bout d'un moment, les moines italiens vendaient le parfum tellement cher que les Grassois se sont dit « Mais tiens, pourquoi pas faire le parfum nous-mêmes ?» Ce qu'ils ont commencé à faire. Et quand ils ont commencé à produire du parfum eux-mêmes, ils se sont dit que forcément ils avaient besoin de fleurs, ils ont planté des fleurs. Et en plantant des fleurs, ils se sont rendus compte que la puissance olfactive des fleurs qui poussaient à Grasse était vraiment incroyable et surtout due à un microclimat très particulier à Grasse.
C'est historique, vous le faites quand vous accueillez des visiteurs?
Bien sûr. Donc quand vous venez visiter l'usine, nous commençons par l'histoire de Grasse, car finalement nous véhiculons bien sûr l'histoire de Fragonard, mais surtout l'histoire d'un territoire qui est lié à un savoir-faire, le savoir-faire de la parfumerie. Et donc nous commençons par cela, par expliquer pourquoi Grasse est la capitale mondiale du parfum.
Si nos auditeurs viennent, qu'est-ce qu'ils voient ensuite?
Alors, première partie est une partie historique, la deuxième partie, qui est une partie aussi très intéressante, qui leur montre donc toutes les étapes, comment un nez travaille, comment fait-on pour devenir nez, qu'est-ce qu'il met dans ses recettes, comment il élabore ses recettes en fonction de ce qu'on appelle la pyramide olfactive, avec ce que de nombreuses personnes savent maintenant, à savoir la note de tête, la note de cœur, la note de fond.
Note de tête, note de cœur, note de fond. Vous pouvez nous rappeler à quoi cela correspond ?
Alors les notes de tête, c'est la partie la plus volatile des fragrances, celle qui s'évapore le plus vite. Les notes de fond, au contraire, s'évaporent beaucoup plus lentement. Et au milieu, il y a la note de cœur, c'est vraiment l'odeur caractéristique d'un parfum. Et le nez, c'est-à-dire le parfumeur, va les associer de manière unique pour composer les fragrances. Allez, je vous propose de retourner à Grasse, où on va découvrir le procédé historique qui permettait d'obtenir les huiles essentielles, ces concentrés naturels à partir desquels on élabore
les parfums. Voilà, les alambics qui servaient vraiment à la distillation à l'époque où il y avait énormément de fleurs à Grasse. Donc alors, comment marche un alambic? Forcément, vous faites chauffer en dessous, donc vous faites un feu. En fond de cuve, vous mettez de l'eau. Le feu et l'eau, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, l'eau va commencer à bouillir et il va y avoir de la vapeur d'eau qui va monter, en milieu de cuve, et en milieu de cuve, vous avez une plaque avec des pétales. La vapeur d'eau va passer, va traverser les pétales et absorber avec eux, emporter avec eux au même moment, les molécules huileuses olfactives des fleurs, des pétales. Donc vous avez sous forme gazeuse, en haute cuve et dans ce long tuyau qu'on appelle le col du cygne, vous avez finalement la vapeur d'eau qui emmène elle-même toutes les molécules huileuses olfactives.
Lors de ce gaz, qu'est-ce qu'on en fait?
Ce gaz, il passe dans cette cuve qui est elle-même pleine d'eau froide, donc il est liquéfié. Et dans ce liquide, vous avez deux parties. Une partie huileuse, qui sont finalement les huiles essentielles qu'on récupère pour le parfum, et une partie aqueuse, qui est très souvent utilisée pour de la gastronomie. Par exemple, peut-être de l'eau de rose ou de l'eau de fleur d'oranger.
On a eu droit à un petit bout de la visite. Merci beaucoup Thibaut pour en découvrir davantage. Il suffit d'aller sur le site, j'imagine, de Fragonard. Merci beaucoup Thibaut, à la semaine prochaine pour une nouvelle visite.
Nathalie.
Sud Radio C'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Merci à tous, on arrive à la fin de cette émission. Encore une très très belle fête des mères à toutes les mamans. Bon dimanche à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio C'est ça la France.